Alors voilà, donc vous êtes le démiurge de l'Utopia qui se trouve près de la Fac des Lettres. Mais quand même, quand on habite au cœur de ville, on peut aller à l'Utopia, c'est très facile. On est toujours très bien reçu.
J'espère bien.
La programmation est très bonne. Donc,
j'espère bien.
Voilà. Alors, écoutez, on va parler justement des prochains films qui vous tiennent à cœur et sur lesquels vous voulez un petit peu insister. Donc, je crois qu'il y a d'abord un film, si j'ai bien compris, c'est Aurore.
Oui, Aurore. Aurore, c'est notre petit coup de cœur. Comme beaucoup de films d'ailleurs dont on va parler aujourd'hui, mais qui est un vrai rayon de soleil, pour plein de raisons. On en a beaucoup parlé, puisqu'il est sorti il y a déjà une ou deux semaines, je crois, parce que pour la composition absolument impressionnante, et pas du tout visible et pas du tout prétentieuse d'Agnès Zoui, qu'on n'avait pas revu en aussi belle forme au cinéma depuis très très longtemps. Voilà, c'est juste un portrait sensible, simple, généreux, adorable. J'aurais pas assez de superlatifs pour encenser ce film, d'une femme d'une cinquantaine d'années et qui est confrontée. Pour aller très vite, on va pas dévoiler non plus, on va pas faire le pitch du film ni en dévoiler le sujet, mais qui a une vie personnelle entre son mec, son ex, sa fille, son boulot, tout part un petit peu en vrille. Elle imagine pouvoir se donner ce qu'elle estime, elle, être une deuxième chance. C'est juste lumineux, ça fait un bien fou, c'est superbement bien écrit, avec les dialogues font mouche, vraiment à chaque instant. Et pour l'anecdote, et peut-être que ça éclairera aussi le film, il est coécrit par Jean-Luc Gaget. Jean-Luc Gaget est toujours scénariste, mais était entre autres connu pour être le co-scénariste des films de Solveig Anspach, qui était qui avait elle aussi ce cinéma très pur, très lumineux, très beau, à la fois très joyeux, mais jamais non plus, jamais ni mièvre, ni appuyé. Et Aurore a absolument toutes ses qualités. C'est un film qui, si vous êtes de constitution à peu près normale, ensoleille votre journée vraiment.
Super, donc c'est vraiment l'aurore.
C'est l'aurore, c'est ça. Écoutez, oui, j'avais même pas percuté sur le... C'est le prénom aussi, accessoirement, le prénom du personnage principal, mais oui, l'aurore, ça lui va comme un gant, c'est merveilleux.
Bon, ben super, ben, c'est vrai qu'on se réjouit effectivement de voir, à l'idée de voir Agnès Jaoui, qui est une très bonne comédienne, qui a joué beaucoup aussi avec Alain René, donc Alain René ne s'y trompait pas, donc c'est déjà une bonne carte de visite. Voilà, et qui, je crois, prépare actuellement un film. Je crois qu'elle devrait écrire, elle est en train d'écrire un scénario sur un prochain film en tant que réalisatrice. Bien, alors donc, Aurore, vous l'avez compris, c'est un film donc de cette année qui dure 1h29, qui est avec Jaoui, c'est à voir. Alors ensuite, eh bien, si j'ai bien compris,
donc le film Aurore est de Blandine Lenoir. Pour l'anecdote, c'est un truc auquel je fais jamais attention et qui, dans ce film, a posteriori, m'a paru extrêmement bien vu et bien touché. La musique est de Bertrand Belin. Oui. Et pour qui est un tout petit peu curieux de la musique de ce garçon, le film a aussi cette tonalité, donc à la fois noire, douce, tendre, espiègle et au final lumineuse. Voilà, excusez-moi, je vous interromps.
Super, non, mais c'est intéressant de parler de la musique de film, ça aide aussi.
Merci.
Évidemment. Voilà, alors, donc après Aurore, vous allez aller voir un deuxième film, c'est le jeudi 4 mai, enfin vous pouvez le voir dans plusieurs jours évidemment, mais le 4 mai à 20h, vous avez la présence du réalisateur, c'est ça?
Oui. Absolument.
Alors, il s'agit de Andrei Zaitsev. Je parle très bien le russe.
Vous l'avez très bien descendu.
Voilà, super. Bon, alors, donc, ce film s'intitule 14 ans, rendez-vous d'amour, c'est ça?
Premier amour. C'est tout mignon à 14 ans. C'est l'âge du premier amour. Et le film raconte exactement ça. Ce qui est assez fascinant, c'est que c'est un deuxième film. C'est aussi un film d'un jeune réalisateur. De la même façon qu'Aurore, c'est un film qui a une lumière et qui porte une espérance et qui fait un bien, qui fait un bien au cœur, à l'âme, aux zygomatiques. C'est assez formidable. Et En plus, 14 ans Premier Amour donc est un film russe. Pour qui s'intéresse un tout petit peu aujourd'hui au cinéma, à la curiosité de temps en temps d'aller voir du côté de la cinématographie qui nous arrive donc de Russie, on a en général la description d'une société difficile. On va parler beaucoup de violence, d'alcoolisme, de chômage, de banlieue qui tombe en ruine. Voilà. Il y a comme ça une espèce de construction de la Russie moderne qui se fait au cinéma, qui arrive en tout cas jusqu'à nous, qui va très très peu porter en tout cas à sourire. Et ce film-là, 14 ans Premier Amour, ne fait pas l'impasse sur une réalité, sur quelques réalités que ce soit. Ça se passe dans une banlieue, ça se passe dans la banlieue moscovite, c'est pas forcément la joie qui règne, mais on est avec des ados du début à la fin. C'est filmé très précisément comme une comédie italienne des années 60-70, c'est-à-dire avec un tout petit peu de distance, pas vraiment d'ironie, mais une énorme tendresse pour les lieux et pour les personnages. Les deux comédiens principaux, les deux jeunes comédiens, mais je mets au défi quiconque de pas fondre devant leur histoire, devant leurs expressions, devant leur façon de jouer ça. Et voilà. Et malgré tout, donc ça raconte. Très très vite à travers essentiellement les yeux du gamin, l'histoire donc de ce petit gosse de 14 ans qui regarde de loin, de très très loin, cette magnifique jeune fille blonde qui a son âge, qui étudie dans un autre lycée, qui semble ne jamais devoir lui être promise parce qu'elle est d'un autre quartier, qu'il y a des petits loulous qui tiennent le quartier, que donc c'est chasse gardée, c'est interdit de s'approcher. Et évidemment, parce que c'est impossible, il va focaliser dessus. Le film parle beaucoup donc de ses premiers émois, de cet éveil quand même à un semblant d'âge adulte à l'heure des réseaux sociaux. Ça utilise énormément les nouvelles technologies, mais de façon très maligne et très simple, et sans en faire l'objet du film, mais vraiment comme un accessoire et comme une façon de montrer les choses. Et on se rend compte que donc ce garçon va effectivement finir par réussir à approcher cette fille, et c'est le début d'une très 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 jolie histoire, très romantique, qui tire un tout petit peu vers le Roméo et Juliette,
c'est
mais de façon
mal.
Ouais, c'est pas plus mal, mais c'est de façon très mignonne. Et donc en arrière-plan, ceux qui sont tout le temps présents mais qu'on ne voit presque jamais, c'est le monde des adultes, c'est la société qui les entoure. Comme je disais, l'impasse n'est pas faite sur la réalité vraiment, mais c'est vraiment laissé en arrière-plan. Et malgré tout, ça raconte, vous verrez, l'histoire d'une mère qui élève seule son gamin, qui le voit grandir, qui le voit lui échapper, qui voit son enfance, l'enfance de son enfant lui échapper, qui se voit elle vieillir à travers l'émancipation de ce gosse. Voilà, il y a tout ça qui est raconté, il y a donc une réalité sociale qui est racontée derrière, mais tout ça avec vraiment un émerveillement en fait, je trouve, et l'idée, je pense, l'idée qui pointe, c'est que tant qu'à 14 ans on est capable de ne pas être sérieux, de s'émerveiller, de s'émouvoir et de tomber amoureux, rien n'est perdu quoi.
Oui, c'est pas faux. Voilà. Très bien, écoutez, je crois que vous en avez parlé magnifiquement bien, on va se précipiter.
J'espère bien. Pour information, donc effectivement, jeudi, on reçoit le réalisateur, on est un peu stressé, un peu tendu, parce que c'est la première fois qu'on reçoit un réalisateur russe. Le côté anecdotique, c'est que c'est le premier film qui est distribué par une toute jeune société de distribution de Montpellier, Fratel Film, qui est par ailleurs une boîte de production, qui produit essentiellement des courts-métrages. D'ailleurs, en première partie du film, jeudi soir, on passera un court-métrage produit par Fratel Film qui s'appelle Les âmes sœurs, qui est un très très joli court. Voilà, mais donc c'est une espèce de conjonction comme ça d'astres qui fait que on est assez fiers, assez heureux de proposer ce film-là et d'avoir cette soirée jeudi. Ouais.
Oui, puis c'est sympa aussi d'aider d'une certaine façon Fratel Film.
Absolument.
Voilà,
merci.
Oui, c'est pas mal. Très bien. Alors, écoutez, donc vous l'avez compris, là jeudi, donc 4 mai à 20h, vous vous précipitez pour aller voir 14 ans, Premier Amour, de Andrei Zaitsev. Voilà, film russe, et c'est vrai que je vous recommande. Moi, je n'ai pas vu le film, donc je n'en parle pas. Je ne sais pas parler de films que je n'ai pas vus, je m'en excuse. Mais voilà, mais en revanche, peut-être que j'y serai également, parce que ça donne envie, tout ça. Bien, alors, ensuite, troisième film. Troisième film sur lequel vous voulez aussi insister, c'est un film qui s'appelle Ice, H-E-I-S. C'est un film qui est réalisé par Anaïs Volpé, c'est un film qui fait 1h46, qui vient d'être réalisé. Il a eu un certain nombre de prix, enfin vous allez nous parler de tout ça. Et là aussi, vous allez recevoir le 9 mai à 20h, la réalisatrice. Donc, écoutez, je vous écoute.
Bah écoutez, on va recevoir à la fois la réalisatrice Anaïs Volpé et la comédienne, une des comédiennes, qui est également la distributrice du film, donc Emilia de Roux Bernal. Ace, qui est sous-titré chronique au pluriel, c'est difficile à résumer. C'est à la fois un projet, un film, un vrai film, et des chroniques au sens littéral. C'est-à-dire que la réalisatrice a développé à la fois une exposition photo, une web-série, et le scénario de ce film-là. Elle a autoproduit intégralement l'ensemble du projet. Ça a à voir avec... C'est une petite forme d'autofiction, c'est-à-dire que le sujet du film, c'est une jeune fille qui artiste, qui revient suite à une déconvenue qu'on comprend être sentimentale, en tout cas un échec sentimental, revient vivre temporairement chez sa mère, avec son frère, alors qu'elle a quitté le berceau familial quelques années auparavant. Donc à la fois il y a l'idée qu'il faut qu'elle retrouve sa place, et à la fois l'idée que peut-être elle peut faire de sa vie quelque chose, le matériau qui va nourrir son expression artistique. Donc on entend bien que entre le sujet du film, la réalisation du film lui-même, ce que Anaïs Volpé a voulu faire, il y a quelque chose d'intimement imbriqué et qui personnellement, je ne suis pas très client ni d'art contemporain, ni de ces recherches finalement d'expérimentation, de nouvelles technologies, de choses comme ça. Et je dois reconnaître que j'ai été totalement bluffé par Ace, mais au sens le plus basique qui soit, c'est-à-dire que je suis tombé devant ce film, je l'ai regardé, j'ai été soufflé, il y a une énergie dingue qui se dégage de ces situations, de cette petite histoire, c'est tout petit, tout ténu, c'est absolument charmant, et finalement on se laisse totalement embarqué et convaincre par donc cette... Anaïs Volpé, la réalisatrice, joue le rôle principal de cette jeune fille. Pour ceux qui connaissent, moi c'est pas du tout mon cas, mais elle est entourée d'un garçon qui s'appelle Mathieu Longat, qui exerce la profession, c'est quelque chose qui m'échappe totalement, qui ce serait YouTuber. Oui. Par excès de profession. Oui. Emilia de Roux Bernal, qui est une comédienne qui trace aujourd'hui son sillon dans le cinéma français, dans un cinéma qu'on pourrait dire un peu à la marge, et pas marginal, mais vraiment à la marge, et qui par ailleurs porte particulièrement ce film-là. Voilà, c'est un objet rare, c'est un objet précieux, et on est très très heureux de pouvoir le projeter. On est une petite dizaine de cinémas en France à nous être amourachés de ce film, et on va essayer de lui donner d'une certaine façon l'exploitation qui lui convient, c'est-à-dire que c'est pas un film qu'on va balancer comme ça pendant deux semaines avec plein de séances en espérant faire plein d'entrées d'un coup, mais il sera disponible probablement sur beaucoup plus de semaines avec très peu de séances par semaine, et on va essayer comme ça, à dose homéopathique en fait, de le faire exister de façon un petit peu différente pour en espérant qu'il arrive à toucher le public qu'il mérite vraiment.
D'accord, donc on a bien compris, c'est un film qui ne sera pas diffusé au Gaumont.
Vous aurez du mal. On peut rêver, moi j'adorerais, c'est un film qui... esthétiquement, thématiquement, il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'il soit projeté où que ce soit.
D'accord.
C'est pas un film compliqué, c'est pas
Sauf
un film
que c'est quand
intello.
Même une démarche, enfin c'est une démarche en plus dans l'air du temps quand même, hein, d'après ce que j'ai entendu dire.
Tout à fait,
dire,
c'est un petit peu dans l'air du temps, mais je vous dis, après moi les effets de mode ont tendance à m'agacer plutôt qu'à me séduire. J'y allais en traînant les pieds, vraiment, et j'ai été sincèrement bluffé.
D'accord, donc il faut oser dans la vie, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur.
Le cinéma, ça mord pas.
On n'en meurt pas. Donc, moi je vous propose, vous pourrez le voir évidemment tous les jours que vous voulez, mais en revanche, si vous voulez voir la réalisatrice et lui poser des questions, ainsi que la comédienne qui sera présente, donc Anaïs Volpé et Emilia de Roux Bernal, c'est mardi 9 mai. À 20h et à l'Utopia, bien évidemment. Nous allons parler d'un autre film maintenant. Il s'agit de Lorette 1942. Oui. Alors 1942, évidemment, c'est l'année qui forcément entraîne tout un cortège de choses pas forcément très agréables. Mais là, il semblerait que ce soit un documentaire fiction de Francis Fourcoux. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ?
Oui, alors très rapidement, parce que d'une certaine façon, le sujet parle de lui-même. Le film est l'adaptation, ou du moins est tiré du livre d'une femme qui s'appelle Laurette Alexis Monet, et le livre était titré « Les Miradors de Vichy ». Il raconte donc l'histoire de cette femme, de Laurette Alexis Monet, mais par extension de plein d'autres femmes, qui n'ont pas été forcément déportées, mais qui ont connu l'internement dans les camps français, les camps de Vichy. Et donc, en l'occurrence, il s'agit du camp du Ré-Sébédou. Et voilà. Et donc Laurette, elle n'est pas déportée. Elle est à la CIMAD et elle est volontaire pour entrer dans le camp et pour accompagner les déportés. Je pense qu'on peut s'arrêter là,
oui,
sur l'explication. Ça parle de lui-même. C'est un film donc
sur
qui
l'histoire.
À la fois fait intervenir des témoins. En l'occurrence, Edith Moscovic, qui est montpelliéraine, intervient dans le film et sera aussi au cinéma pour la présentation du film, puisqu'elle a également connu ce camp de l'intérieur. Donc il y a toute une partie comme ça de témoignages documentaires, et il y a toute une partie de fictionnalisation, on pourrait presque dire d'illustration, en tout cas de reconstitution historique. Voilà, c'est absolument passionnant, c'est absolument glaçant. Est très, je trouve, très très respectueux. Il a vraiment le ton juste par rapport à l'importance que peut avoir cette histoire et la façon dont on peut ou dont on doit la raconter, je pense.
D'accord. Alors bon, bah évidemment, je crois qu'à Montpellier, il y a beaucoup de gens qui connaissent Edith Moscovic, hein, parce que je crois qu'elle intervient beaucoup dans des collèges ou des lycées. Et donc, c'est un film, je suppose, qui devrait pouvoir intéresser des professeurs d'histoire, des élèves. Vous avez prévu ça ?
Tout à fait. Donc, on a lancé un mailing, on peut aussi relancer cet appel par voie de radio. Il nous paraît excessivement important, je dirais, a fortiori dans les périodes politiques troublées qu'on peut traverser, de faire cette piqûre de rappel à des élèves. Ça, oui, vraiment, ça nous paraît très très important. On organise des séances scolaires en matinée à la demande, et Edith se propose en plus d'accompagner assez systématiquement les projections et d'intervenir.
Oui, oui, je sais qu'elle le fait très volontiers. Et là, en revanche, ce camp du Ré-Sébédou, pardonnez mon ignorance, mais je ne sais pas où c'est.
Ah, c'est Haute-Garonne.
Ah bon. Ah ouais.
Voilà.
Ah ouais.
Enfin, autant que je sache. Après, c'est vrai que moi, je suis pas.
Ouais.
Comme souvent, nous, on découvre l'histoire ou on découvre les situations en voyant les films. Donc, on sait, bien sûr, on sait de façon théorique qu'il y a eu en France un certain nombre de camps d'internement qui étaient un peu des gardes de triage de la déportation. Et voilà. Donc, c'en est un précisément. Il y a une histoire qui a été écrite sur ce camp-là, et c'est celui-là, comme ça aurait pu en être, ça aurait pu être n'importe lequel. Enfin voilà, il n'y a pas de.
D'accord. Et alors, justement, comme ça se passe, semble-t-il, dans le Midi, enfin dans le Sud, je vois que le narrateur, c'est Philippe Cobert. Bon, lui aussi, il était d'origine plutôt marseillaise ou je ne sais pas, hein, oui.
Tout à fait.
Hein, voilà.
Je pense que l'importance de la voix de Cobert, elle est. Enfin, c'est des rencontres. Je sais que Francis Fourcoux a rencontré Philippe Cobert, et que quand Philippe Fourcoux commence à vous parler de ses projets et commence à vous décrire son envie de raconter, son envie de transmettre, c'est très très difficile de résister. Visiblement, Philippe Cobert n'a pas résisté très longtemps.
Voilà, d'accord. Parce que Francis Fourcoux, justement, vous le suivez depuis longtemps.
Oui, tout à fait. Bah, c'est un régional. Oui, maintenant, dans la grande région, c'est un peu un régional pour nous. Il est établi à Toulouse et effectivement, il réalise essentiellement des documentaires. Il avait notamment réalisé un film qui a beaucoup intéressé les exploitants de salles de cinéma, assez peu le public à l'époque, qui s'appelait « J'aime la vie, je fais du vélo, je vais au cinéma ».
Voilà,
qui était une très très belle idée, qui était un très très beau film qu'on a énormément porté à l'époque, qui essayait, au-delà de la stricte question du cinéma, de parler urbanisme, écologie et culture.
D'accord, ouais, c'est bien.
Francis Franco est un garçon passionnant.
Ouais. Donc ça veut dire que vous, quand même, l'Utopia, c'est un peu sa philosophie de travailler avec des gens de qualité, mais du coin. On peut être du coin et de qualité.
On peut être du coin et de qualité, comme on peut être d'ailleurs et de qualité. Vous voyez, ouais. depuis tout à l'heure, on parle de films qui viennent de Russie, de Toulouse, de Blandine Lenoir, elle est plutôt parisienne, de partout en fait.
Ouais, oui,
c'est surtout ça. C'est surtout ça qui nous passionne. Après, par contre, c'est vrai que c'est pas un gros effort, on s'efforce d'être vraiment attentif à tout ce qui se fait, que ce soit de la très très grosse production, on se met jamais d'œillère, jusqu'aux toutes petites choses qui ne sortiraient probablement jamais. Je pense à Ace en l'occurrence, ou à Lorette 1942, qui sont des films qui ont des exploitations en salle qui sont assez rares, qui sont assez fragiles. Donc voilà, on se met pas, c'est pas parce qu'un film est peu diffusé qu'on va pas s'y intéresser, c'est pas
bien.
Parce qu'un film est fait ici qu'on va se partir d'un avoir un a priori négatif, mais c'est pas non plus parce qu'on est dans le local qu'on va s'enthousiasmer pour des choses.
Ça me paraît tout à fait judicieux, c'est voilà. Parfait, vous avez bien fait d'être finalement diffuseur et s'occuper d'une salle de cinéma.
C'est gentil.
Alors, donc tout ça pour dire que Lorette 1942, donc il y a une séance unique, semble-t-il.
Alors, non, il y a plusieurs séances.
D'accord.
En fait, on était parti, ça s'appelle une coquille ou une erreur de relecture quand on a fait notre programme. Il y a une séance importante, on va
d'accord,
l'appeler comme ça,
voilà.
Une séance spéciale le 12 mai à
19h30. Oui.
Et elle, initialement, on s'était dit on va mettre une ou deux séances de rattrapage. Et en fait, en fouillant dans nos grilles horaires, vous verrez qu'il y en
que
a plutôt 5 ou 6
d'accord.
ou 7.
Donc, Lorette 1942. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, c'est noté. On va parler maintenant d'un film qui est toujours diffusé, mais qui est déjà diffusé depuis pas mal de temps. C'est un documentaire, c'est à voix haute.
Oui, hein, tout à fait.
Allez-y.
Bon, en fait, alors là, on va faire très très vite parce que c'est un film qui a énormément fait parler de lui. C'est donc ce film sur ce concours d'éloquence qui se tient en Seine-Saint-Denis. Ça fait du bien, allez-y, je vous jure, ça fait du bien de voir que la parole, que la façon de parler, c'est un film qui parle contre le déterminisme social. Et ça fait un bien, mais vous imaginez pas. J'ai lu ça et là que il y avait un côté, enfin on parle des gamins des banlieues de façon différente, blabla. On s'en fout qu'ils soient en lieu ou d'ailleurs. L'important, c'est se dire que la parole libère, quoi.
Oui.
C'est juste formidable.
Oui, moi j'ai entendu l'autre jour une émission où on disait que c'est même aussi, quelquefois, faut le savoir, plus difficile de parler que d'écrire. Parce
oui.
que parler, c'est en direct, on y va, par le ton de la voix, le tempo, enfin il y a plein de choses qui sont dites.
Il y a plein de choses, et le film insiste énormément là-dessus, et c'est très très drôle. Je pense qu'il faut insister là-dessus, c'est que le film est bourré d'humour. Et oui, la parole, ce n'est pas que l'exercice qu'on est en train de faire en ce moment de transmettre la voix à la radio, mais le concours parle aussi de corps, d'exprimer avec sa voix, avec son corps, de sa gestuelle, de sa façon d'être, de sa présentation, de tout ça. Non, je vous dis, ça fait un bien fou.
Oui, oui.
Et les plus malins ne sont pas forcément les meilleurs, et les plus hableurs ne sont pas forcément les meilleurs non plus. C'est fascinant.
Oui. Et j'ai vu que celui qui tenait le rôle du professeur, il me semble que c'est un avocat, non ?
J'ai oublié, je sais plus.
Oui, oui, oui.
C'est possible.
J'ai vu ça, mais j'ai pas vu le film, mais en revanche, j'avais vu un interview, il a l'air en plus très à l'écoute, enfin bon, ça compte
oui,
aussi.
Oui, après, c'est très proche des exercices d'éloquence de fac de droit.
Exactement, exactement. Donc, à voix haute, voilà, donc un documentaire à voir, absolument, un film de Stéphane de Freitas, voilà, et donc je crois d'ailleurs que le jeune garçon, il y a un concours et il y en a un qui gagne, enfin c'est lui qui avait interviewé.
C'est sur le principe du concours, vous verrez, il y a un petit suspense qui monte.
Ça aussi, voilà, c'est un film qui peut être vu par des adolescents. Hein.
Absolument, qui doit absolument être vu par des adolescents.
Voilà, donc ça,
mais
on
les
insiste.
Adolescents doivent tout, c'est important.
Oui, mais c'est vrai, mais ça, il faut peut-être le dire aussi aux parents. Bon, enfin bref, c'est un autre problème. Alors, je crois qu'il faut parler maintenant d'un autre film que vous aimez beaucoup et qui s'appelle Félicité.
Oui, on aime trop de films, c'est terrible.
Félicité,
pareil, on va faire un petit peu court parce que d'abord, il a eu beaucoup, beaucoup de presse, il a été beaucoup, beaucoup chroniqué. Il y a peut-être deux petites choses qu'on peut rappeler sur donc ce magnifique portrait de femme absolument enthousiasmant qui traverse Kinshasa la nuit, qui parle de musique, qui est un film d'ambiance, qui est un film comme ça qui a une énergie folle, qui pourrait verser dans un mélo ou dans un pathos et qui tient avec une espèce de rage, une énergie absolument communicative. C'est assez formidable. Moi, je voulais juste précisé. Oui, si, pour la petite histoire, dire que le film, quand même, a reçu l'étalon d'or de Yanega au FESPACO, dernier FESPACO, donc en tant que film africain.
Et le grand prix du jury.
Quel grand prix du jury. Ouais. Et qu'en tant que film français, il était au Festival de Berlin au début 2017 et qu'il a quand même eu le grand prix du jury à l'Ours d'Argent à Berlin. Voilà, c'est ce qui c'est pose un petit peu la classe internationale de ce film. Et ce qui nous fait, alors, à nous, Utopia en général, et peut-être à moi en particulier, un plaisir particulier, c'est que Alain Gomis est un réalisateur qu'on suit depuis très longtemps, qui fait des films qui sont en général peu vus, qui sont toujours d'une sensibilité et d'un intérêt formidable. Moi, j'ai toujours en mémoire la découverte de son tout premier film, qui s'appelait La France, avec un L apostrophe et un A privatif, et qui était un film d'une sensibilité, vraiment d'une finesse rare, quoi. Et quand on voit un premier film comme ça, qu'on suit le parcours d'un gars et qu'il en arrive à faire féliciter qui est la classe vraiment intégrale, on est fiers pour lui, on est content de pouvoir continuer à programmer ses films, on est content de pouvoir continuer à le soutenir, on est très fiers de lui. Je voulais juste signaler par rapport à ce film-là, on organise tous les mois, en fait, toutes les 5-6 semaines, un ciné-tricoté, une séance particulière, un samedi après-midi. Évidemment, si je vous en parle maintenant, c'est que donc le prochain se fera à l'issue de la projection d'une projection de Félicité. Le principe étant que vous venez voir le film ou vous l'avez déjà vu, d'ailleurs, c'est pas très important, et dans ce cas-là, vous venez après. Vous venez avec vos aiguilles, vos pelotes de laine, et à l'issue de la projection, on prend un thé ensemble.
C'est les tricoteuses
ensemble.
Alors,
il y a des tricoteurs aussi tricoteuses et on papote et on parle du film.
C'est rigolo.
Donc le prochain c'est le 6 mai.
6 mai,
c'est,
alors on
c'est
note.
C'est samedi prochain.
Attention, voilà. D'accord.
Donc samedi prochain, le 6 mai, vers autour de 14h, j'ai plus
d'accord,
l'heure.
D'accord, donc après-midi tricoteuse, et projection.
Petite tasse de thé, et puis très sincèrement, se faire un petit après-midi, aller voir Félicité, boire un thé, tricoter. Avant le deuxième tour des élections présidentielles, mais
c'est
quel bonheur.
C'est vrai. Après,
ça sera plus compliqué.
Voilà. En tout cas, Félicité, donc un film d'Alain Gomis, quand on voit la photo, moi je n'ai pas vu le film là encore, donc je ne parle jamais des films, je le répète, que l'a vu. Je vois que la comédienne apparemment a quand même de la gueule.
Comédienne a de la gueule. Là, puisque vous dites la photo, on va même parler ça de façon beaucoup plus générique, mais la photographie du film, l'image du film est à tomber par terre. Vraiment. Bon. Ce gars, il a un sens du cadre et de la lumière, mais qui ça se voit pas, mais on sait qu'il tourne avec des petits moyens, c'est pas des grosses prods, et pourtant il y a une beauté, il offre un beau cadre, il offre une belle image à ses personnages, a fortiori à ce personnage de femme là qu'il magnifie vraiment. Donc il y a deux choses qui sont... Je crois que j'aurais beaucoup parlé, alors que je le fais jamais, j'aurais beaucoup parlé de musique, j'aurais aussi pu en parler pour 14 ans. Et là, à nouveau, c'est un film qui parle énormément de musique, et la musique porte le film du début à la fin, du soir au matin. Enfin, c'est
ça, si elle fait partie, c'est-à-dire si elle n'est pas redondante la musique est très importante,
elle fait
évidemment.
Partie intégrante du film, c'est un vrai bonheur.
Ok, bah écoutez, j'ai l'impression que, alors là vraiment, on a l'embarras du choix, on va être tous les jours...
Je suis désolé pour vous.
Non mais voilà, c'est ça, on va être tous les jours au Cinoche, quoi. Quand est-ce qu'on travaille? Bah écoutez, on verra après, ce sera après le dimanche prochain, c'est
voilà.
Ça on travaillera après dimanche prochain. Ok, bien, en tout cas, bah écoutez, merci mille fois. Donc je rappelle que là vous précipitez la première projection où vous devez être, c'est le 4 mai à 20h, c'est la première, et puis ensuite vous avez vu c'est le 6 mai, c'est tous les jours quoi finalement. Bon ben Arnaud, merci infiniment.
Merci de nous avoir reçus.
Et ben avec grand plaisir, parce que parler de bons films c'est toujours un grand plaisir. Merci Stéphane qui était à la technique, et donc nous nous revoyons peut-être le mois prochain.
J'espère bien, si vous êtes toujours d'accord.
Avec plaisir.